Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien en ce vendredi 13 2017. Hélène Denis qui vous accompagne. Est-ce que c'est parce que c'est vendredi 13 que vous êtes là, Jean-Sébastien Laliberté?
Eh oui. Non, il n'est pas arrivé malheur à Mathieu.
Habillé en noir. Non, non, vague à d'autres occupations. Il est dans le building, comme dirait Elvis, ou son gérant. Alors, vendredi 13, est-ce que vous êtes superstitieux, vous?
J'essaie de ne pas l'être, mais à chaque fois qu'on pense ne pas l'être, on trouve des preuves pour tenter de nous faire penser que finalement, oui, peut-être, il y a un petit quelque chose.
Jusqu'à maintenant, tout va bien?
Oui, et on touche du contreplaqué.
Oui, pour que ça continue. Alors, je vous écoute dans les éphémérides du 13 octobre.
13 octobre, c'est la journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Et pour prévenir les catastrophes naturelles, quoi de mieux que de souligner également la journée internationale du hamburger et la journée mondiale de l'œuf. Journée pour les protéines qui comptent double. Événement marquant du 13 octobre en 2016, donc il y a un an à pareille date, Bob Dylan recevait... on avait l'annonce que Bob Dylan recevrait le prix Nobel de littérature, lui qui a pris quelques mois avant d'en prendre possession.
Il a dit oui.
Oui, tout à fait. Et j'ai pu survoler le texte qu'il a lu et il a littéralement écrit une nouvelle pour son texte, de remerciement, d'acceptation. En 2006, 13 octobre, naissance de l'État islamique en Irak, donc c'est une date un peu moins joyeuse. En 2005, l'homme d'affaires québécois Vincent Lacroix met en faillite Norbeau, qui a fait du ravage dans le futur de certaines familles québécoises.
Malheureusement.
13 octobre 1999, à Washington, le Sénat refuse de ratifier le traité général interdisant les essais de bombes atomiques. 1997, au pied de la côte des Éboulements dans Charlevoix, un autocar plonge dans le ravin. Catastrophe qui, on le rappelle, a fait 44 morts. 13 octobre 1993, le Canadien Michael Smith et l'Américain Carey Mullis gagnent le prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur les séquences d'acide désoxyribonucléique.
Bravo!
L'ADN, donc le code génétique. 1977, le vol Lufthansa 181, pardon, en partance des Baléares et détourné par quatre pirates de l'air se revendiquant du Front populaire de libération de la Palestine. Donc le vol jusqu'en Somalie et le pilote sera tué. 1970, la Chine communiste et le Canada établissent des relations diplomatiques. Taïwan rompt aussitôt avec Ottawa. 13 octobre 1966, une explosion fait 11 victimes à l'usine de produits chimiques de Monsanto à La Salle. 1953, le prix Nobel, on y revient, le prix Nobel de littérature va au premier ministre anglais Winston Churchill. 1943, Benito Mussolini étant écarté du pouvoir, l'Italie déclare la guerre à l'Allemagne nazie, jusque-là son allié. 13 octobre 1884, le méridien zéro, donc on parle de fuseau horaire, le méridien zéro étant établi à Greenwich. Il ne faut pas dire Greenwich, donc c'est un de ces nombreux mots anglophones dans lesquels il y a un W qu'on ne devrait pas prononcer.
Oui, alors il faut dire aussi Greenwich Village quand on parle de New York.
Absolument.
Ouais.
Donc, le méridien zéro est établi à Greenwich, près de Londres. Il détermine l'heure appelée Greenwich Mean Time, ou l'acronyme GMT.
Il y a un W, mais on ne le prononce pas.
Exactement.
Merci.
13 octobre 1307, arrestation de tous les Templiers en France. Et en 54, Néron accède au trône de l'Empire romain. Le 13 octobre, c'est également l'anniversaire de naissance du chanteur et comédien Ivo Lévy, qu'on connaît comme étant Yves Montand.
Ah oui.
Né en 1921. Également l'anniversaire de naissance de la politicienne britannique Margaret Thatcher. 1941, la naissance du chanteur américain Paul Simon, duo Simon & Garfunkel. Et 1934, naissance de la chanteuse grecque Nana Mouskouri.
Merci beaucoup Jean-Sébastien et bon vendredi 13.
Et pareillement à vous.
À la une de la presse, gang de rue, aucun parent n'est à l'abri. C'est une citation, le cri du cœur d'un père policier qui a vu sa fille subir l'emprise d'un groupe criminel. Libération d'un couple canado-américain, 5 ans entre les mains des talibans. Des wagons plongent dans la rivière des Mille-Îles. et art cinéma des zombies made in Québec, l'audace du réalisateur Robin Aubert est récompensée. La chronique d'Yves Boisvert, les mots pour ne pas le dire. Infomane en fait déjà ses délices, mais en cette journée internationale du langage clair, entre parenthèses, pour vrai, revenons sur cette citation. Cela se passait mercredi. C'était la première rencontre d'Isabelle Melenchon avec les journalistes en tant que nouvelle ministre de l'Environnement. Un journaliste lui demande quel message la politique du gouvernement envoie à l'industrie du gaz et du pétrole avec le virage vert annoncé. Bien, moi, ce que je vais regarder, vous savez, c'est le développement durable, l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, entre parenthèses. Merci Charles, point d'exclamation. Moi, j'ai un chapeau et je vais le mettre. Vous savez, un conseil des ministres, ça travaille ensemble. Moi, j'ai un chapeau et je vais le porter avec, point de suspension, beaucoup de joie. Je suis une travaillante. Mais le message aux entreprises, ma porte a toujours été ouverte. Je l'ai fait comme députée, je vais le faire comme ministre. Je suis là pour veiller au grain et c'est ce que je vais faire. J'imagine que l'industrie sait à quoi s'en tenir, point de suspension. C'est un exemple absolument bénin. C'est le premier qui m'est tombé sous la main et ce serait bien injuste de reprocher à une personne qui est ministre depuis 15 minutes de ne pas connaître ses dossiers. Ce qui est intéressant ici, c'est que déjà, on lui a enseigné l'art défensif de ne rien dire. Je crois qu'avant de faire un ministre d'un être humain, on l'emmène dans une petite pièce blanche sans fenêtre où on lui inocule le virus du parler creux par une piqûre dans la fesse gauche. Certains résistent, plusieurs sombres. À la fin d'une mêlée de presse, il reste une série de mots qui forment une séquence logique, mais néanmoins incompréhensible. Il reste un chapeau qui sera porté et un grain. Oui, c'est vrai, il a été question d'un grain sur lequel il faut veiller. C'est quoi la question déjà? La question, c'était celle du journaliste du Journal de Québec, Patrick Bellerose, à l'ex-ministre des Transports, Laurent Lessard, au sujet d'Uber il y a deux semaines. Monsieur Lessard, vous êtes satisfait du projet pilote, dans le fond, depuis un an? Bien, le suivi qu'on a fait sur une base hebdomadaire avec eux concernant la formation, l'obtention du permis 4C, les vérifications d'antécédents, de maladies, donc de santé, le volet santé, l'encadrement sur deux éléments, la formation, puisqu'on avait développé un cadre différent avec l'application mobile, mais qui était, je dirais, jugé trop souple, qui manquait de robustesse et principalement aussi la formation sur ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc, et non pas de développer une application pour chercher comment ils ne le font pas, mais plutôt de faire de la formation sur respecter la réglementation en place, dont les courses ailées, éviter d'avoir des lanternons. OK, j'arrête ici, c'est ce qu'écrit Yves Boisvert. Pourquoi ce torrent de mots? La question n'est pas compliquée, mais le ministre flaire un piège. Il ne veut dire ni oui, ce qui irait contre les nouvelles exigences qu'il vient d'annoncer, ni non, il ne veut pas fermer la porte à Uber. Alors, il parle. Des chercheurs français ont tenté de retracer l'origine de l'expression « langue de bois », apparue dans les médias français à la fin des années 70. C'est un héritage des communistes russes qui l'employaient pour décrire le langage officiel rigide et stéréotypé. C'est au fond un discours qui est destiné à ne pas communiquer. Il sert à camoufler les apparences, à éviter le sujet, à ne faire aucune erreur, à étourdir l'interlocuteur. Mais son but est essentiellement de ne rien dire, avec une abondance de mots. Les gens de communication qui manufacturent ce langage sont partout dans nos gouvernements. Le gouvernement Trudeau est la quintessence du gouvernement de communicants. On a beaucoup parlé de Mélanie Joly, mais l'exemple vient du bureau du premier ministre et plusieurs autres ministres sont atteints du mal des communications. Les symptômes ressemblent au mal des profondeurs qui frappent certains plongeurs. Étourdissement, ivresse, perte des repères. Pas surprenant que Stéphane Dion ait levé les feutres. Ils diront que ces mécanismes de défense, contrôle des communications, lignes apprises par cœur, sont la réponse à une presse mesquine qui cherche sans arrêt la faute, la contradiction pour prendre en défaut les élus. Ce n'est pas entièrement faux. Il est vrai aussi qu'on abuse de l'accusation. Parler d'enjeux complexes avec des nuances, ce n'est pas utiliser la langue de bois. Mais ça n'entre pas toujours dans les formats médiatiques, encore moins dans 140 caractères. Les politiciens sont loin d'être les seuls ébénistes du langage. Tout le secteur public excelle à ce jeu. Rien n'est plus délicieux qu'un plan de développement stratégique quinquennal de l'École nationale d'administration publique qui forme nos hauts fonctionnaires. L'idée est d'inscrire noir sur blanc sa vision. Cette vision lance également un signal dynamique et non équivoque au sujet de sa participation dans l'espace public au débat concernant l'organisation et le devenir de la chose publique. Quid, en effet, du devenir de cette chose? Mais poursuivons. En cela, l'école demeure sensible aux préoccupations des administrations publiques conjuguées à la demande sociale actuelle pour une modernisation et une plus grande efficience des administrations publiques. Voilà, c'est dit, c'est clair et c'est fichtrement public. Ce n'est pas entièrement leur faute. On demande aux organismes de produire des plans, des bilans, des perspectives. Alors, ils noircissent des pages et des pages. Ils veulent avoir l'air de bien faire les choses. Eux aussi brouillent les eaux de leurs pensées pour faire croire qu'elles sont profondes, comme disait le philosophe. On fait bouillir 25 pages, il en reste une et demie. Les professionnels, quant à eux, préfèrent le jargon de spécialistes. Les avocats en particulier se délectent du charabia juridique. Utiliser entre initiés un langage incompréhensible aux profanes, c'est s'en distancer. C'est asseoir son pouvoir avec des mots. La résistance s'organise. Éducaloi, un organisme québécois de vulgarisation de la loi, s'emploie notamment à enseigner le langage clair aux juristes, y compris aux juges, dont le taux de lisibilité des jugements a progressé de manière spectaculaire depuis une génération. Développer un langage clair, c'est se mettre à la place de l'autre, c'est développer l'empathie, dit la directrice Ariane Charbonneau. Dans l'arène politique, c'est un enjeu démocratique. Dans la montée du populisme, il y a aussi de cela. L'écœurement général face à une parole qui ne veut rien dire pour faire détourner le regard, pour tromper. La direction du magazine Protégez-vous a annoncé hier qu'elle révisait ses conclusions sur le miel de la ferme québécoise Les Trois Acres. Au mois de mai, le magazine avait inclus le miel de la ferme de Donham dans le lot des produits non conformes lors d'une enquête sur la fraude dans le miel. Les apiculteurs québécois ont toujours défendu sans réserve leurs produits et ont commandé des analyses indépendantes. Après avoir pris connaissance des résultats de ces tests, Protégez-vous a changé sa conclusion. Les automobilistes de la région de Montréal seraient bien avisés d'éviter les secteurs de l'échangeur Turcot et du pont Mercier durant la prochaine fin de semaine en raison de nombreuses fermetures de voies et de bretelles prévues jusqu'à lundi matin. Le commandant Robert Piché, rendu célèbre par l'atterrissage d'urgence d'un appareil Airbus 330 aux Açores en 2001, a effectué un vol d'adieu hier. Monsieur Piché aura 65 ans en novembre, soit l'âge de la retraite obligatoire pour les pilotes de ligne. Et l'analyste politique Luc Lavoie est de retour à l'émission La Joute, plus d'une semaine après sa suspension par TVA Nouvelles, alors que la Sûreté du Québec enquêtait pour déterminer s'il y avait eu infraction criminelle lorsqu'il a fait une blague sur une chasse aux séparatistes, entre guillemets. Il a finalement réintégré son équipe hier après-midi. Plus tôt ce mois-ci, M. Lavoie a dit en ondes qu'il aurait aimé pouvoir chasser les séparatistes, mais ça a l'air que c'est pas possible. L'analyste politique avait prononcé ces mots alors qu'il commentait une pétition déposée au Salon Bleu sur la chasse aux écureuils. Le soir même, M. Lavoie s'était publiquement excusé sur les réseaux sociaux, qualifiant lui-même la blague qu'il avait voulu faire d'offensante et odieuse. La direction de TVA avait également condamné ses propos alors que le Parti québécois l'avait sévèrement critiqué et avait souhaité une réaction forte de la part du réseau de télévision. La SQ, qui a ouvert une enquête ayant reçu des plaintes de citoyens, a depuis conclu qu'il n'y avait eu aucune infraction criminelle de commise.
Moi, je viens du moulin, je viens de la mine. Moi, je viens du vacarme de l'usine. Je viens d'une promesse et d'un bout de pain. J'habite à côté, je reviens de loin. Mes grands-mères allaient à l'église et puis recousaient les chemises. Mes grands-pères travaillaient la terre puis faisaient souche avec leur verre. Je viens d'un peuple de travailleurs. Je viens d'un père qui se lève à l'heure. Ma mère coupait les cheveux, puis exigeait que je fasse de mon mieux. J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon, avec une guitare, puis un crayon. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. T'es ma blonde, je suis ton chum, ensemble on doit rien à personne. D'un arbre et d'un ruisseau. Je viens d'un désir et de quelques mots. Je viens de ceux qui ont bâti de leurs mains, ceux qui font tout avec rien. Les ouvriers des abattoirs, les vendeurs de hot dogs sur le boulevard, les monteurs d'acier dans le ciel, les mères qui se tapent tout le bordel, les livreurs de caisses de bière, le monde qui brasse des affaires, tous ceux qui ont la parole modeste et puis qui parlent par leurs gestes. J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon, avec une guitare puis un crayon. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. T'es ma blonde, je suis ton chum, ensemble on doit rien à personne. Jamais perdu de vue l'attrait du beau grand inconnu. Ceux qui se lèvent avant le soleil et puis qui inventent des merveilles, qui filent d'une étoile à l'autre, reprennent leur souffle puis remontent la côte. Je viens d'un monde où sur le frigidaire de ceux qui font avec ce qu'il y a dans l'armoire, ensemble dans les mauvais jours. Je viens d'une grande histoire d'amour. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. T'es ma blonde, je suis ton chum. Ensemble, on doit rien à personne.
C'était la nouveauté de Vincent Vallière. Ça s'intitule « À hauteur d'homme ».
En une du Devoir en ce vendredi 13 octobre, sécurité routière. La cohabitation entre tous les usagers de la rue n'est pas toujours facile, mais il y a moyen de faire mieux, dit un groupe de travail qui a produit un rapport sur la question à la demande du ministère des Transports, notamment en laissant le haut du pavé aux plus vulnérables, piétons et cyclistes, qui ne seraient plus tenus de respecter les feux rouges et qui pourraient traverser la chaussée en dehors des passages pour piétons, comme le montre la photo d'une dame qui, avec son café à la main, traverse devant une voiture qui est vraiment tout près d'elle. Réfugiés, la GRC ne posera plus de questions abusives. Vanessa Redgrave, la militante, pour son premier documentaire, l'actrice jette sa lumière sur les réfugiés et ceux qui les secourent. La leçon catalane. Les Catalans pourront-ils éviter la dislocation nationale que connaît le Québec depuis 1995? La chronique de Christian Rioux. Remaniement Couillard sort de ses gonds. Zeitgeist, c'est la chronique de José Blanchette à l'ombre de Lord Z. Et 5 otages libérés après 5 ans de détention. Choquant, discriminatoire. Un questionnaire qu'a fait passer la Gendarmerie royale du Canada à des demandeurs d'asile interceptés à la frontière a suscité une avalanche de critiques parce qu'il semble cibler les musulmans. Ayant eu lui-même des inquiétudes, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a jugé inapproprié cet outil qui a finalement été suspendu mercredi. Comment vous sentez-vous par rapport aux femmes qui ne portent pas le hijab? Quelle est votre opinion à propos du groupe État islamique, des talibans, etc.? Pratiquez-vous votre religion? Si oui, à quelle fréquence? Ce sont là quelques-unes des 40 questions d'un guide d'entrevue utilisé par les agents de la GRC lors de leurs interventions cet été dans les environs de La Colle au Québec, obtenu par le Toronto Star. Le questionnaire n'est plus utilisé, mais quand et pendant combien de temps il l'a été? Le Devoir n'a pas pu obtenir des réponses précises de la part de la GRC. Il n'a pas non plus été possible de savoir si ce questionnaire a été soumis systématiquement à toute personne interceptée ou seulement à celle ayant l'islam comme religion. Toutes les questions ne sont pas posées, c'est seulement un guide a néanmoins indiqué par courriel Annie Delisle aux relations médias de la GRC. Otage canado-américain libéré après 5 ans de détention en Afghanistan. Le secret entoure le sauvetage du couple Boyle-Coleman et de leurs 3 enfants. Ils avaient disparu soudainement il y a 5 ans dans les montagnes d'Afghanistan. Ils ont été libérés tout aussi inopinément cette semaine. Le Canadien Joshua Boyle, son épouse américaine Caitlin Coleman et leurs 3 enfants, tous nés en captivité sous l'emprise du réseau terroriste Haqqani, ont retrouvé leur liberté dans des circonstances qui demeuraient nébuleuses jeudi. La nouvelle est venue des autorités pakistanaises qui annonçaient jeudi matin avoir secouru la famille avec l'aide de renseignements récoltés par les Américains. Regroupés, mais pas fusionnés. Regrouper n'est pas fusionner, dit Barrette. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, s'engage à trouver une façon de garantir que le regroupement administratif de l'hôpital Sainte-Justine et du centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, ne rimera jamais avec leur fusion. Si on doit garantir la non-fusion parce qu'il y a des inquiétudes, je crois que c'est quelque chose de faisable, assure M. Barrette en entrevue avec Le Devoir. Jeudi, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, CMDP, de l'hôpital Sainte-Justine, a lancé « Aimer, défendre, ensemble, protégeons l'avenir du CHU Sainte-Justine », une campagne de mobilisation en faveur de l'autonomie de l'institution. Le personnel de l'hôpital pédiatrique s'inquiète du futur de l'établissement depuis le regroupement de la direction et du conseil d'administration avec le CHUM en septembre 2015. Au lendemain du remaniement qui l'a épargné, le ministre s'est pour la première fois engagé à rassurer le personnel de l'établissement pédiatrique. Le ministre a toutefois insisté sur la distinction entre un regroupement et une fusion. Le regroupement a été fait et il est terminé. Il n'y a pas d'autre étape, souligne-t-il. La présidente du CMDP, Valérie Lamarre, croit que l'engagement du ministre est un pas dans la bonne direction. Toutefois, elle estime que l'autonomie de l'hôpital Sainte-Justine ne sera réellement garantie qu'avec une direction indépendante qui se consacre à temps plein à sa mission. Le gouvernement fédéral investira 850 000 $ dans la conversion de la maison mère des Sœurs Grises de Montréal, acquise en 2007 par l'Université Concordia. L'aide financière d'Ottawa permettra notamment de maintenir la restauration de l'ancien couvent de pierre situé sur le boulevard René-Lévesque. L'établissement érigé en 1869 a servi de maison mère et de résidence à plus de 1000 sœurs grises pendant plus de 130 ans. En 2007, l'Université Concordia a acquis le site et l'a transformé en résidence pour étudiants. Le bâtiment abrite également une salle de lecture. Il s'agirait d'une véritable révolution sur les routes du Québec. Un groupe de travail recommande la mise en place d'un code de la rue voué à atténuer la culture du char, entre guillemets, et qui donnerait la priorité aux usagers les plus vulnérables comme les piétons et les cyclistes. Selon ce que Le Devoir a appris, ce projet inspiré de pays européens introduirait le principe de prudence dans le code de la sécurité, CSR, la sécurité routière. Évidemment, les automobilistes devraient céder le passage aux gens qui se déplacent à pied, non seulement au passage prévu à cet effet, mais aussi à tout endroit situé à plus de 50 mètres d'un passage pour piétons. Bref, le jaywalking serait légalisé. Cette nouvelle version du CSR, le Code de la sécurité routière, accorderait la priorité absolue à la vie humaine plutôt qu'au temps de déplacement en voiture, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Les auteurs de l'étude estiment réaliste d'implanter un tel code de la rue au Québec, malgré la règle du « no fault » et des décennies de domination de la voiture sur les routes nord-américaines. Merci d'écouter les voies de service quotidiens ce vendredi 13 octobre 2017. Soyez prudents si vous voyez un chat noir. Et il ne faut pas passer sous l'échelle. Ou il faut passer sous l'échelle, je ne sais pas. Il ne faut pas passer sous l'échelle si vous en rencontrez une. Ici Hélène Denis, la superstitieuse, mais à peine. Je vous retrouve après la pause avec la suite de l'émission, notamment la revue de presse du Journal de Montréal.
Léché avec tes crocs coupants, tu voulais me sombrer avec toi, mais je dansais avec Dieu déjà. Tu t'es craché dans ta gueule à toi. Tu
une autre nouveauté, oui, ce matin, c'était On danse par en dedans et c'était La Bronze.
À la une du Journal de Montréal, des wagons à l'eau, déraillement entre Laval et Terrebonne. Poëty veut s'attaquer au bordel informatique. Les Québécois accros aux somnifères, prescription en hausse de 41% en 5 ans. Quatre wagons tombent dans une rivière. Un déraillement de train est survenu hier soir sur un pont ferroviaire entre les villes de Laval et Terrebonne. Au moins quatre wagons d'un train de marchandises qui transportait de la poudre de ciment sont tombés à l'eau à la suite d'un déraillement survenu hier soir sur un pont entre Laval et Terrebonne. Ça a fait un bruit terrible. La maison a vibré comme elle n'avait jamais vibré, a raconté un résident de Laval, Franck Delaval. C'est bien son nom de famille, Delaval. L'homme qui habite depuis 22 ans à côté de l'entrée du pont réservé à la circulation ferroviaire affirme n'avoir jamais vu rien de tel. L'accident n'aurait toutefois fait aucun blessé, selon Éric Arnois, chef de division au service de sécurité incendie de Terrebonne. Les chauffeurs ont également été secourus à temps. Les wagons qui se trouvaient vers la tête du convoi seraient sortis des rails peu après 21 heures. M. Arnois a indiqué que les wagons tombés à l'eau étaient vides. Ils servent à transporter du ciment et étaient en route pour être remplis de nouveau. Les chauffeurs m'ont dit n'avoir remarqué aucune anomalie avant l'accident, a commenté le maire de Terrebonne, Stéphane Berthe. Un important déploiement des services d'urgence s'est mis en branle en milieu de soirée. Des agents du ministère de l'Environnement étaient présents pour évaluer les risques de contamination pour la rivière. Les Québécois s'endorment aux pilules. Les Québécois ont de plus en plus recours aux somnifères pour régler leurs problèmes de sommeil alors que le nombre d'ordonnances pour certaines prescriptions a bondi de 41% en 5 ans, selon des données obtenues par le Journal de Montréal. Les spécialistes et psychologues interrogés par le journal ne se surprennent pas de cette hausse de prescriptions qui peut s'expliquer par des rythmes de vie effrénés, de l'anxiété de performance au travail, une mauvaise gestion de l'équilibre entre le travail et les loisirs, en plus des téléphones ou autres appareils consultés avant d'aller au lit. Selon Statistique Canada, 43% des hommes et 55% des femmes ont de la difficulté à dormir ou à rester endormis la nuit. C'est la méthode facile, c'est beaucoup plus simple à court terme que d'enseigner aux gens à modifier leur mode de vie, leurs habitudes de sommeil et d'apprendre à mieux contrôler leur anxiété, explique Charles Morin, professeur de psychologie à l'Université Laval et spécialisé en troubles du sommeil. Le chercheur ne condamne pas l'utilisation de médicaments, surtout lors de problèmes situationnels, mais indique qu'il devrait être utilisé comme bouée de secours. Comment s'assurer d'un bon sommeil, selon les experts? Prévoir un temps de transition pour soi avant d'aller au lit. Il faut faire une activité que l'on aime, indique la psychologue Emmanuelle Bastille-Denis en précisant qu'il doit s'agir d'activités peu stimulantes. Faire une pause sur vos tâches à réaliser avant d'aller au lit, ne pas consulter d'appareils intelligents avant le coucher. La lumière bleue des appareils empêche la sécrétion de la mélatonine. Robert Poëty a l'intention de faire le ménage dans les dépenses informatiques du gouvernement et souhaite créer l'autorité des marchés publics le plus vite possible. Le « bordel informatique » entre guillemets revient cher aux Québécois. Les dépenses informatiques frisent les 3,5 milliards de dollars par année et les dépassements de coûts sont la norme. Un exemple, le projet SAGIR, S-A-G-I-R, qui vise la modernisation de tous les systèmes de gestion de l'administration publique québécoise, devait coûter 83 millions. L'État paiera finalement près de 15 fois cette somme. Il a ainsi été rebaptisé « SACHIR » par des fonctionnaires catastrophés, avait révélé notre bureau d'enquête. C'est ce genre de dérapage que M. Poetti doit éliminer. Il a donc pour mandat de faire adopter le projet de loi 135 qui renforce la gouvernance et la gestion de l'informatique le plus tôt possible. M. Poetti, qui dirigera une équipe de 5 employés, aura aussi le mandat de créer l'autorité des marchés publics, la police des contrats comme il l'appelle. Ce projet de loi en est à l'étude article par article, mais est bloqué, car le bureau de l'inspecteur général de Montréal et d'autres organismes refusent de s'y soumettre. Il s'agit pourtant d'une recommandation phare de la commission Charbonneau. « On veut faire débloquer ça », a dit M. Poetti. Son statut de ministre lui donnera davantage de pouvoir qu'il en avait comme député. Le nombre d'arrêts de service dans le métro est en hausse de 30 % par rapport à l'an dernier, et ce, malgré le remplacement progressif de trains plus anciens par les nouveaux Azur. À la fin du mois de septembre, 858 arrêts de service de plus de 5 minutes dans le métro avaient été accumulés par la Société de transport de Montréal. À pareille date l'an dernier, il y en avait eu 647. Un simple calcul permet d'estimer à environ 1100 le nombre d'interruptions de plusieurs minutes qui pourraient avoir lieu cette année. Ce sera difficile d'atteindre un meilleur résultat qu'en 2016, a concédé la directrice exécutive du métro à la STM, Marie-Claude Léonard. La gestionnaire corporative aux affaires publiques de la société de transport Joanne Dufour a toutefois précisé que le réseau de métro de Montréal, avec un taux de fiabilité d'environ 98 % subit beaucoup moins d'arrêts de service que le métro de Londres, par exemple. Comme 40 % des interruptions de service sont liées à la clientèle, qui, par exemple, retient les portes ou échappe des objets sur les rails, la STM compte déployer plus d'employés sur les quais afin de prévenir les mauvais comportements et d'agir en situation d'urgence. Depuis qu'on a commencé à être plus actif sur les réseaux sociaux pour informer des arrêts de service, on a remarqué qu'il y a moins de plaintes et de commentaires négatifs, explique Joanne Dufour. Les 400 employés des usines de production d'eau potable de Montréal peuvent bomber le torse après que l'installation Atwater eut reçu le prix du public au concours de la meilleure eau municipale du Québec dans le cadre du Symposium sur la gestion de l'eau 2017, organisé par Réseau Environnement. De plus, 5 des usines de production d'eau potable de l'île de Montréal ont obtenu des attestations au programme d'excellence en eau potable, dont l'usine Pointe-Claire, qui a reçu une attestation 5 étoiles pour la qualité de l'eau produite sur place. Une reconnaissance 3 étoiles a par ailleurs été donnée aux usines de production d'eau potable de Dorval, de la Chine, de Pierrefonds et d'Atwater. C'est à la suite d'une dégustation à l'aveugle que l'usine de production d'eau potable Atwater a été décorée du prix du public de la meilleure eau municipale du Québec. Les gens présents au symposium étaient en effet invités à se prêter au jeu d'une dégustation à l'aveugle pour départager les lauréats. Et pour terminer, une nouvelle légère, mais qui a coûté cher à l'acheteur, le somptueux penthouse du chanteur Sting et de sa femme, Trudy Styler, avec vue sur Central Park à New York, vient d'être vendu 50 millions de dollars. Le duplex qui occupe le 16e et le 17e étage était sur le marché depuis mai dernier. Le musicien et l'actrice l'avaient acheté en 2008 pour 27 millions. Ils avaient alors embauché l'architecte Lee F. Mendel de Shelton Mendel and Associates, pour convertir deux unités en un seul penthouse de 5500 pieds carrés, en plus d'installer un escalier flottant et une cheminée sur mesure.
la chaleur du désert, la saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur l'immensité du ciel ouvert. J'ai la fraîcheur d'une rivière, la colère du typhon. J'ai l'amour d'une mer, les tourments des quatre vents. Comme ils tombent les flocons de l'hiver. J'ai la lumière du soleil, le frisson de la fougère, la rudesse de l'hiver, la douceur du miel, la folie manifeste et la tristesse éphémère, la foi, mais de celle qui ne pose pas de barrière. Étrange comme je t'aime, comme le fleuve, je m'abreuve à l'océan de ta pensée, boire toute l'eau de la mer pour que tu viennes m'aimer. Simplement comme hier. Étrange comme je t'aime. Étrange comme je t'aime. Prise au piège, j'écoute les tambours de la pluie. Je pleure au torrent qu'en voyant la souffrance d'autrui. Trop de choses à la fois se font des routes dans ma tête, alors je ne sais plus rien. Sauf que pour toi, je creuserai de nouveaux sillons, mélodie de l'univers.
C'était Doriane Fabreg et Carole Facal, alias Doba Caracol, avec la pièce « Étrange ».
Dans le cahier ou la section pause de la presse aujourd'hui, on parle de beauté, vrai ou faux, 10 mythes expliqués. Les croyances populaires en beauté sont nombreuses. Il ne faut jamais arracher ses cheveux blancs. Le dentifrice fait disparaître les boutons. Il n'est nécessaire d'appliquer de la crème que l'été. Nous avons demandé à deux spécialistes d'en démystifier 10. C'est un article d'Olivia Lévy. Si on arrache un cheveu blanc, 20 vont repousser. Vrai ou faux? Faux. Oui, vous avez raison, Jean-Sébastien. Un cheval blanc. Je pensais à Claude Léveillé, à cette belle chanson. Un cheveu blanc, c'est une dépigmentation. Alors, ce n'est pas en arrachant un cheveu que d'un seul coup, les autres vont se mettre à pousser, explique Liette Bélanger, artiste portfolio chez L'Oréal Professionnel et copropriétaire du salon Funky Talk. Si toutefois d'autres cheveux deviennent blancs, c'est que dans cette région, il y a une dépigmentation qui s'effectue. Avec les années, les cheveux deviennent graduellement blancs. C'est héréditaire, on ne peut rien y faire. Par contre, ce que j'ai pu observer chez celles qui arrachent leurs cheveux blancs, c'est qu'il repousse d'une drôle de manière. Il frisotte comme si le cheveu blanc avait été traumatisé et pousse en frisottant. Je vous dirai que de manière générale, il ne faut pas arracher ses cheveux, qu'ils soient blancs ou pas. Le dentifrice fait disparaître les boutons.
Vrai.
C'est faux. Utiliser du dentifrice pourrait avoir des conséquences dommageables pour la peau, indique Ariane Beaulieu-Sirois, formatrice régionale pour Vichy. Il y a des ingrédients dans le dentifrice qui vont assécher les boutons et les ingrédients antibactériens ne vont pas les soigner. Il y a aussi le fluor qui pourrait créer des rougeurs et des irritations de la peau, tout comme les agents blanchissants qui pourraient avoir un effet néfaste sur la peau. Se laver les cheveux tous les jours n'est pas bon pour nos cheveux.
Mi-vrai, mi-faux.
La réponse qu'on a ici, vrai. Il faut laisser le sébum naturel revenir sur le cuir chevelu. C'est le meilleur traitement pour nos cheveux, assure Liette Bélanger. Si on se lave les cheveux tous les jours, on ne laisse pas la nature suivre son cours normal, on va les assécher. Je conseille toujours de se faire un shampoing tous les 2 ou 3 jours. Pour ceux et celles qui s'entraînent et qui transpirent tous les jours, il est préférable d'utiliser un shampoing plus doux et hydratant qui va renforcer les cheveux. Il faut changer de crème au bout d'un certain temps parce que notre peau s'y habitue et la crème ne fera plus effet. Est-ce que vous vous aventurez dans une réponse? Vous risquez? Faux, vous avez raison. L'efficacité d'une crème n'est pas du tout reliée à son accoutumance, affirme Ariane Beaulieu-Sirois. C'est notre peau qui va changer à travers les années et les saisons. Par exemple, l'hiver, la peau est plus sèche et on a besoin de l'hydrater davantage. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge a un impact majeur sur la peau, tout comme le stress et les changements hormonaux. La peau est un organe vivant, elle va réagir aux agressions extérieures. Si une femme utilise la même crème pendant 6 ou 7 ans et qu'elle comble tous ses besoins, c'est parfait. Il faudra en changer seulement si on juge qu'on a besoin d'un soin plus adapté. Mon conjoint peut utiliser mes crèmes.
Oui.
Oui, vous le faites, vous, Jean-Sébastien?
Non, mais nous sommes des êtres humains, donc la peau doit être la même.
Vrai, virgule, mais point de suspension. Il pourrait les utiliser, mais la crème ne sera pas adaptée car la peau des hommes est 15 à 20 plus épaisse que celle des femmes et moins sensible, indique la formatrice régionale pour Vichy. Ils ont plus d'eau et de fibres de collagène, ce qui fait en sorte que leurs premiers signes de vieillissement apparaissent plus tard. Il n'y a pas de justice. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Leur peau est grandement régulée par la testostérone et est souvent sujette à une surproduction du sébum, d'où le fait que les adolescents ont généralement plus d'acné. Un bon nettoyant non comédogène est approprié pour les hommes. Il ne faut jamais dormir maquillé.
Je ne me risque pas de répondre.
Logiquement, ça serait...
Il ne faut pas dormir maquillé.
Ouais, alors c'est vrai. C'est vrai qu'il faut pas dormir maquillé. Il faut toujours se nettoyer le visage avant de se coucher, surtout si vous étiez maquillé, car le maquillage obstrue les pores de peau. La nuit est le moment où la peau se régénère le plus. Pendant la journée, notre peau est en mode défense et la nuit, elle se régénère. Si elle n'est pas démaquillée, la peau ne respirera pas pendant la nuit, résume Ariane Beaulieu-Sirois. À 25 ans, je suis trop jeune pour appliquer un soin anti-âge. Vrai ou faux, Jean-Sébastien?
Vrai.
Faux! Il n'y a rien de négatif à commencer à prendre un soin anti-âge dès la mi-vingtaine. Les résultats seront moins visibles. Jean-Sébastien a l'air découragé. Je poursuis. Les résultats seront moins visibles car la peau est encore très ferme et moins terne à cet âge, mais il est préférable de commencer plus tôt que plus tard, estime Ariane Beaulieu-Sirois. Dans une crème anti-âge, il y a une forte concentration d'acide hyaluronique qu'on a naturellement dans notre peau. Dès 25 ans, le teint de la peau, sa fermeté et son élasticité commencent à décliner. Les ingrédients contenus dans une crème anti-âge seront bénéfiques pour la peau d'une femme de cet âge. D'un homme aussi, j'imagine. Il n'est nécessaire d'appliquer de la crème solaire que l'été.
Faux.
Oui, vous avez gagné quelques points. Alors, peut-être une crème solaire, qui sait? Tout le monde pense que les soins solaires ne s'appliquent que l'été, c'est faux. Il faut en porter toute l'année, lance la formatrice régionale pour Vichy. Les rayons UVB sont responsables des coups de soleil, mais les rayons UVA sont les plus dommageables pour le vieillissement de la peau et les taches pigmentaires. L'hiver, 80 % des rayons sont reflétés par la neige. On ne s'en rend pas compte car on ne bronzera pas, mais il faut absolument que la peau soit protégée. Dans la crème de jour, il y a souvent une protection FPS de 15. C'est une protection que je qualifie d'urbaine. Ça suffit pour aller travailler. Si vous faites des activités de plein air l'hiver, l'idéal est d'appliquer une crème solaire avec un minimum, un indice FPS de 30. Et il faut couper les pointes des cheveux pour qu'elles puissent pousser plus vite.
Faux.
Bravo, faux. Les cheveux ne pousseront pas plus vite, mais plus en santé. Toutes les 3 semaines, on peut couper 1 demi-centimètre pour avoir des cheveux plus en santé. Si la pointe est cassée et fine, elle va s'effiler et s'effriter. En la coupant, elle va bien mieux repousser, de manière plus droite et plus solide. Il n'y aura plus de pointes fourchues qui poussent chacune de leur côté. Par contre, les cheveux ne pousseront pas plus vite de la racine, mais ils vont moins s'effiler, explique Liette Bélanger. Dernière question. Les cheveux poussent plus vite lorsqu'on les coupe à la pleine lune.
Faux!
Faux! Ma mère, qui est coiffeuse et a 95 ans, m'a toujours dit que les cheveux poussaient plus vite lorsqu'on les coupait à la pleine lune, raconte Liette Bélanger, copropriétaire du salon Funky Talk. À ce jour, après 37 ans d'expérience, je dirais que c'est faux. Mais c'est une belle croyance populaire. J'ai observé que les soirs de pleine lune nous affectent. On est plus excités. Il y a une vraie énergie les soirs de pleine lune. Notre système est plus réactif, mais bon, ça ne fait pas pousser les cheveux plus vite. Alors, vous avez pratiquement eu 10 sur 10, mon cher Jean-Sébastien. Merci d'avoir participé. Et... Au Jardin botanique et au Biodôme, le Jardin botanique et l'Insectarium proposent plusieurs activités sur le thème Halloween pendant tout le mois. Au Jardin, c'est le grand bal des 800 citrouilles dans la grande serre. On pourra voir la sorcière Esmeralda et entendre le conte animé « Pois, bébé sorcière » tiré d'un conte de Lucie Papineau. À l'Insectarium, on pourra voir des animations sur les araignées et assister à la lecture du conte « Le roi des bestioles ». Le Biodôme se joindra à la fête avec l'Halloween des animaux la fin de semaine du 28 octobre. Bref, c'est le moment d'y aller en famille. Pour avoir tous les détails, www.espacepourlavie.ca. Et puisque nous irons au musée, pourquoi ne pas en profiter pour emprunter une entrée pour le dit musée? Les abonnés de la Bibliothèque de Montréal ou de la Grande Bibliothèque ont maintenant cette chance. On peut en effet se procurer un laissez-passer valide pour 2 personnes qui donnent accès aux expositions du Musée des beaux-arts et du Centre d'histoire de Montréal. C'est offert dans les 45 bibliothèques de Montréal et à la Grande Bibliothèque et il est possible de réserver en ligne. Notez que les enfants de moins de 12 ans entrent gratuitement au musée. Merci d'écouter Canal M de Vues et Voix à venir, les actualités internationales, culturelles et la tournée des journaux régionaux.
Just a little something I want. No. check these seeds and burn them all, so they don't take root in me. I cannot face upstream. Abandoned ship to join a war. Hope is victorious. The water level's rising in this styrofoam cup. There's so much labor just in breathing lately. There's so much labor just in breathing lately. There's so much labor just in breathing.
C'était Alejandra Ribera avec la pièce I Want.
Actualité internationale maintenant. 37 morts, 40 disparus dans des inondations liées aux intempéries. Au moins 37 personnes ont péri au Vietnam et 40 sont portées disparues dans des inondations et glissements de terrain liés à des intempéries ravageant le nord et le centre du pays, annoncé hier le gouvernement. Le plus important maintenant, c'est de réunir nos forces pour partir à la recherche des disparus, a déclaré le vice-premier ministre Trinh Dinh Dong à la télévision depuis la province de Hoa Binh dans le nord du pays. Les habitants doivent être évacués des zones à risque, a ajouté Trinh Dinh Dong, qui doit en parallèle se préparer à l'arrivée dans quelques jours d'une tempête tropicale venant des Philippines. Le mouvement islamiste Hamas et son rival palestinien du Fatah ont signé hier au Caire un accord de réconciliation destiné à mettre fin à une décennie de déchirements, en se laissant 2 mois pour résoudre les problèmes les plus épineux. Mais Israël a rapidement signifié qu'il ne traiterait pas avec un gouvernement d'unité palestinien si celui-ci ne reconnaissait pas Israël et ne désarmait pas le Hamas. Une réconciliation avec le Hamas ne fait que compliquer la recherche de la paix avec Israël, a estimé le premier ministre Benjamin Netanyahou. Le Hamas et le Fatah, encore à couteau tiré il y a quelques semaines, ont annoncé leur accord après 2 jours de négociations tenues dans le plus grand secret, au Caire. Quelques 65 000 personnes ont défilé jeudi à Barcelone pour l'unité du pays menacée par la crise catalane alors que la fête nationale espagnole était endeuillée par la mort d'un pilote dans l'écrasement d'un avion de combat. Le premier ministre Mariano Rajoy et le roi Felipe VI ont assisté à la traditionnelle parade militaire le long du boulevard du Paseo de la Castellana à Madrid pour commémorer l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique en 1492. Mais l'humeur n'est pas franchement à la fête en Espagne, aux prises avec sa plus grave crise politique depuis le retour de la démocratie en 1977, avec la volonté de divorce des indépendantistes au pouvoir en Catalogne. Attendu fin novembre au Myanmar, le pape François vient en émissaire de paix, a assuré jeudi l'Église catholique, alors que sa défense des Rohingyas musulmans qui fuient en masse ce pays agité par un bouddhisme radical risque d'enflammer l'opinion publique birmane. Le pape vient pour le bien du pays et il parlera de la paix, a insisté le porte-parole de la Conférence des évêques catholiques du Myanmar, Mariano So Nang. Nous ne savons pas encore de quoi il parlera et s'il évoquera la crise en état, Rakhine, a précisé le prélat. Cette région de l'ouest du Myanmar est au cœur du conflit entre rebelles Rohingyas et armées qui a conduit depuis fin août à la fuite de plus d'un demi-million de civils Rohingyas au Bangladesh voisin. Des progrès, entre guillemets, ont été réalisés en Haïti où s'achève la mission des casques bleus remplacée par une force de policiers plus petite, mais il ne s'agit que de premières étapes, a souligné hier devant le Conseil de sécurité l'envoyé spécial de l'ONU dans ce pays, Sandra Honoré. 13 ans et demi après le déploiement de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, le peuple haïtien jouit désormais d'un degré important de sécurité, de davantage de stabilité. Les violences politiques ont fortement diminué, les bandes armées ne tiennent plus la population en otage, cela grâce notamment au travail de la police nationale, désormais forte de 14 000 agents, a-t-elle précisé. En pleine formation dans l'Atlantique, la tempête Ophelia, devenue un ouragan mercredi, risque de retenir l'attention au cours des prochains jours. C'est que cette 10e tempête cyclonique de la saison se dirige plutôt vers le nord-est, vers les côtes, l'Europe de l'Ouest, au lieu de s'approcher de l'Amérique, comme c'est le cas habituellement. Cet ouragan, classé catégorie 2 hier soir, devrait frapper particulièrement fort en Irlande et en Grande-Bretagne dès lundi. Habituellement, les ouragans se forment au large du Cap-Vert en Afrique et gagnent en puissance en traversant l'Atlantique d'est en ouest, alimentés par les eaux chaudes caractéristiques de la fin de l'été. La saison des ouragans 2017 a été particulièrement active et des ouragans très puissants ont marqué la période, que ce soit Harvey, Maria ou Irma, et cette saison n'est pas terminée. Actualité culturelle, maintenant, Sylvain Cormier écrit un texte intitulé « Barbara, l'album Mission d'Alexandre Tarot ». Ça coïncide exactement, les 20 ans du décès de Barbara, les 20 ans de gestation de son projet Barbara. Littéralement, pour le pianiste classique Alexandre Tarot, ça a commencé par la fin, le 27 novembre 1997, au cimetière de Bagneux, le jour de la mise en terre de Barbara, décédé quelques jours auparavant. Un moment déclencheur, un moment clé dans la grande histoire d'amour qui lie à vie le grand musicien à la grande Barbara et à ses immenses chansons. Une histoire d'amour entre un fan et son idole, comme Alexandre Tarot le dit sans retenue, à son bout du fil transatlantique. Comme dans la chanson que Barbara chantait à la fin de chaque récital, « Ma plus belle histoire d'amour ». C'est parti d'une émotion et d'une communion, résume-t-il. Dans le livret qui accompagne Barbara, le double album que consacre le pianiste avec ses amis chanteurs et chanteuses au répertoire de celle qu'il appelle « ce génie de la chanson française », Tarot raconte comment, tout doucement, autour de la tombe, les gens se sont mis à chanter d'abord « Dis, quand reviendras-tu » et d'autres immortels d'elle. Au devoir, il raconte la suite. Dans le métro, en revenant chez moi, je me suis dit que j'aurais dû venir à l'enterrement avec mon petit Walkman d'adolescent et enregistrer ces voix d'anonymes. J'étais en colère, j'avais raté l'essentiel. Et je me suis juré alors qu'un jour, je ferais un disque avec des gens comme ça. Sa carrière dans le monde de la musique classique a progressé jusqu'à la renommée internationale, mais Taro n'a jamais oublié sa promesse. Ça s'est fait lentement, progressivement. Il m'arrivait dans un festival où je faisais 7 ou 8 concerts d'avoir une carte blanche et j'en profitais pour inviter des amis chanteurs et chanteuses. Invariablement, il y avait du Barbara au programme. Des anonymes de l'enterrement aux complices connus, des soirées conviviales à cet album hommage, et il n'y a eu qu'un prolongement naturel. L'album a beau paraître pour les 20 ans du départ de Barbara, on est loin du commerce de l'anniversaire. J'aurais très bien pu sortir ça il y a 2 ans, 3 ans, mais il n'y avait tellement rien eu pour les 10 ans, sauf des livres. Pardon, le micro. J'ai pensé que c'était mon devoir de le faire. Je n'imaginais pas qu'il y aurait tous ces autres hommages cette année. Il s'agit en cela moins d'un album hommage que d'un album mission. Il y a pour moi cette évidence. En tant que pianiste classique, je vends des disques dans le monde entier. Contrairement aux chanteurs de chansons françaises, à de rares exceptions près, je sais qu'un peu partout, des gens vont se procurer ce disque parce que c'est le mien. Et à travers moi, à travers le travail d'interprétation de mes invités, à travers ce programme dont j'ai choisi les titres et fait les arrangements, des gens vont découvrir Barbara. C'est ce qui me fait le plus plaisir, faire œuvre utile. Difficile d'imaginer travail plus soigné, plus attentif. L'admirateur et l'exceptionnel musicien se sont nourris l'un l'autre. Autant ça va loin dans le répertoire, cet enfant-là, Septembre, À mourir pour mourir ne sont pas a priori les incontournables de Barbara. On ne trouve ni Göttingham, ni l'aigle noir. Autant la manière est fine, délicate. J'avais du temps en studio. J'ai enregistré des pistes sur toutes sortes de claviers, en plus du piano du Hammond ou du Wurlitzer, du Fender Rhodes au synthé. Mais plus j'en ajoutais, plus j'en enlevais. Avec Barbara, il faut une sorte de minimalisme, sinon elle s'enfuit. La même exigence a prévalu pour les interprétations des Dominique A, Benabar, Radio Elvis, Juliette, Vanessa Paradis, Albin de la Simone et les autres amis choisis. Pour chanter Barbara, il faut prendre un peu à contre-pied la chanson, s'éloigner de Barbara pour mieux la retrouver. C'est ce que fait Juliette Binoche en disant « Vienne ». Ou Indy Zara, lorsqu'elle chante, c'est « When will you return? » Exercice d'adaptation étonnamment fluide. Alors, c'est la version anglaise de « Dis, quand reviendras-tu? » On ne peut pas incarner Barbara. On peut seulement tenter de donner envie aux gens d'aller vers elle. Un seul concert sera décanté de ce double album. Alexandre Tarot et ses invités se produiront ce samedi à la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris. Vous avez tout juste le temps d'attraper un vol, mais tout le temps pour Monde, pour ses exquises, tout le temps du monde pour ses exquises relectures et retrouver Barbara. Donc, une chronique entrevue de Sylvain Cormier sur cet album à qui il accorde 4 étoiles, Barbara, Alexandre Tarot et invité.
Many days have gone by, and so many dark nights. Look at how long it's been since you told me goodbye. You said this voyage will be my very last. When I come back to you, we will forget the past. In the spring you will see I will be at your side. Oh, the spring is sublime when the word comes alive. We'll go walking together through gardens in flower. And stroll arm in arm through the streets of Paris. Say, when will you return? Say, do you know yourself? And all the time that passes will not return.
c'est beau. Merci Jean-Sébastien. C'est un extrait donc de cet album dont je viens vous parler, Alexandre Tarot et ses invités. Dit « Quand reviendras-tu » dans une version anglaise. Et c'était interprété par Indy Zara. Dix ans de livres, hommages, trompettes et confettis, la librairie indépendante Le Port de Tête fête ses 10 ans avec un lancement où toute l'équipe, 18 personnes, sera réunie dans le petit cocon du plateau, qui a récemment ouvert un deuxième espace juste en face du premier. Une panoplie de poètes, dont Patrice Desbiens, Benoît Chaput et Daniel Canty, seront de la soirée à laquelle sont invités habitués, bouquineurs et autres amoureux des livres, tant les déjà conquis que les passants d'un soir. C'est aujourd'hui même, de 17h à minuit, au 262 et au 269 avenue du Mont-Royal-Est, l'entrée est libre. La tournée des journaux régionaux, je commence avec une chronique de Mylène Moisan intitulée « C'est qui le zouf dans le soleil d'aujourd'hui? » Martin a 44 ans. Il est atteint de sclérose en plaques depuis presque 10 ans. Ses jambes sont de plus en plus molles. Il se déplace depuis un peu plus de 2 ans avec un fauteuil motorisé. Avec ça, il peut aller partout, sortir de son logement. Aller voir ses amis, tiens, comme celui qui habite à Limoilou, pas loin du Jean Coutu sur de la Canardière. Il était allé lui rendre visite le 10 mai, une de ces journées frisquettes qu'on a eues au printemps. Ils ont jasé sur la galerie, sont entrés à l'intérieur. Quand ils sont ressortis, le fauteuil avait disparu. Volé. C'est une histoire d'une minute. J'étais rentrée pour aller aux toilettes, je le gardais habituellement à l'œil, je n'aurais pas pensé qu'il se ferait voler. Voler un fauteuil roulant. Faut le faire. Martin a déposé une plainte à la police. Ils m'ont dit que ça arrivait de temps en temps, mais qu'ils les retrouvaient toujours. Martin n'a pas eu la même chance. Son fauteuil motorisé n'a pas été trouvé. À la police, on m'a confirmé que le voleur ou la voleuse court toujours. Le dossier est fermé. Il n'y a eu aucune arrestation. J'ai demandé si les vols de fauteuils roulants étaient fréquents. Ça arrive, mais ce n'est pas un problème marquant. C'en est un pour Martin. Non, mais... quel genre de zouf peut voler un fauteuil roulant? Martin a appelé sa compagnie d'assurance. Il avait opté pour un forfait tout risque, convaincu que son fauteuil était couvert. Il ne l'était pas. Ils m'ont dit que j'aurais dû les aviser que j'avais un fauteuil motorisé. J'ai fait une petite recherche auprès d'assureurs. La couverture offerte varie d'un endroit à l'autre. Considéré comme un bien meuble, calculé dans le montant total assurable, le fauteuil est habituellement couvert à l'intérieur du domicile, mais pas hors lieu, où le remboursement va de tout à rien. Martin l'a appris à ses dépens. Le prochain, il va être tellement assuré, je vais mettre un GPS dessus. Le fauteuil motorisé lui avait été fourni par le Centre François Charron il y a un peu plus de 2 ans. Martin a appelé pour savoir si c'était possible d'en avoir un autre, vu les circonstances. Ils m'ont dit que ce n'était pas possible, qu'on pouvait en avoir un aux 5 ans. Il lui reste plus de 2 ans à attendre. Sans fauteuil motorisé, ses déplacements sont beaucoup plus compliqués. Il ne sort plus beaucoup de chez lui. Il n'a pas assez d'argent pour s'en acheter un autre. Dans son autre vie, quand il travaillait, il aurait eu les moyens. J'ai toujours travaillé dans la construction. Je travaillais pour Genivard. J'ai travaillé à la construction de 6-7 barrages, un cinéma Odéon. J'ai fait plusieurs gros projets. Les premiers symptômes de la maladie sont apparus en 2007. C'est lent au début. On ne savait pas trop c'était quoi. Il avait 34 ans. Le diagnostic de sclérose en plaques, une maladie dégénérative, est tombé 2 ans plus tard. Avec le temps qui est passé avant d'avoir le diagnostic, je n'ai pas eu le droit à l'assurance salaire. Je me suis retrouvée avec presque rien. Je vis avec la régie des rentes et un peu d'aide sociale. Une fois le loyer et le reste payé, il ne reste plus grand-chose. C'est la mère de Martin qui m'a appelée pour me raconter l'histoire de son garçon qui tourne en rond depuis 5 mois. Elle s'est dit que quelqu'un, quelque part, aurait peut-être un fauteuil motorisé à prêter à Martin, ou même un quadriporteur pour dépanner, le temps d'en avoir un autre dans 2 ans. Je me suis dit la même chose. Mylène Moisan, dans Le Soleil d'aujourd'hui. Histoire bien triste dans le quotidien sous la plume de Jonathan Hudon. Une enseignante s'effondre en classe. L'école secondaire Camille Lavoie d'Alma est frappée par une tragédie. Une enseignante est morte après s'être effondrée devant ses élèves en fin d'avant-midi mercredi en pleine salle de cours. Les jeunes et le personnel de l'établissement ont été informés du décès de l'enseignante jeudi matin. Il s'agit de Suzy Tremblay, âgée dans la quarantaine. Elle aurait succombé à un anévrisme, une information que la direction de la commission scolaire n'a pas voulu confirmer. Au moment du triste événement, elle se trouvait avec un groupe de 5e secondaire. Une enseignante qui était en classe devant les élèves a eu un malaise et s'est effondrée, a expliqué la directrice adjointe à la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Christine Flaherty. Un membre du personnel passait devant la classe, donc des soins d'urgence ont été portés très rapidement. Une ambulance est aussi arrivée rapidement et les élèves qui étaient dans la classe ont été amenés dans un autre local en compagnie d'intervenants et enseignants. Mme Flaherty a précisé que la mort de l'enseignante n'avait pas été constatée à l'école. Au moment des événements, les ambulanciers ont demandé au personnel de l'école de retenir tous les élèves dans leurs classes respectives, le temps de procéder à l'évacuation complète de la victime. Ils sont donc restés en classe un peu moins de 10 minutes après le son de la cloche. À la suite de l'annonce du décès de l'enseignante, les élèves qui ont assisté à la scène ont été pris en charge par des ressources professionnelles, ainsi que tous les élèves dont elle était la tutrice. Le service a également été mis à la disposition de tous les élèves et du personnel enseignant. « C'est très difficile, l'école est en deuil », a dit Christine Flaherty. « On va continuer de soutenir tout le personnel le temps que la douleur va se faire ressentir. C'était une personne appréciée de tous, c'est traumatisant pour tout le monde. » Dans une communication envoyée aux parents, la direction de l'école secondaire Camille Lavoie a offert tout le soutien nécessaire aux élèves tout en offrant ses condoléances aux proches et à la famille de la victime. Avant de travailler à l'école Camille Lavoie, Suzy Tremblay a enseigné à l'école secondaire Curé Hébert d'Héberville. Dans le droit, Paulette Gagnon, le legs d'une bâtisseuse, texte d'Yves Bergerat. La disparition de Paulette Gagnon mercredi soir laisse un vide immense dans le milieu du théâtre franco-ontarien, mais aussi parmi toute la communauté culturelle œuvrant en situation minoritaire, ont souligné jeudi de nombreux créateurs de l'Ontario français, abasourdis par ce décès survenu à 62 ans. De Hearst, sa ville natale, à Sudbury, où ses efforts pour mettre sur pied la place des arts du Grand Sudbury étaient sur le point de porter fruit, et de Toronto à Ottawa, où elle a œuvré pendant 15 ans, dont 5 années charnières à la direction générale de la Nouvelle Scène de 1997 à 2001. C'est donc sous son mandat que l'édifice a pu voir le jour en 1999. Les hommages et témoignages d'affection ont abondé sur les réseaux sociaux jeudi. Paulette Gagnon, qui a occupé d'importantes fonctions administratives au sein de structures essentielles au secteur culturel, dont Direction Jeunesse, Théâtre Action, le Conseil des arts de l'Ontario, le Théâtre français du Centre national des arts, la Fédération culturelle canadienne-française et l'Association des théâtres francophones du Canada, laisse derrière elle un legs immense, estime le metteur en scène Joël Bédoz. Au Conseil des arts de l'Ontario, elle a fait une mise à jour de tous les programmes de subvention franco-ontariens dans une période d'austérité, ce qui n'était pas une tâche facile, rappelle-t-il. Idem lors du projet d'implantation de la nouvelle scène que Mme Gagnon a mené à une période où les programmes voués aux infrastructures n'existaient pas encore. C'était donc un gros travail de représentation politique, retrace l'actuel directeur artistique du Théâtre français de Toronto. Et les hommages pleuvent. Voilà, c'est tout pour les voix de service quotidien en ce vendredi 13 octobre. Je vous souhaite une très belle journée. Beau week-end également. Ici Hélène Denis qui vous retrouve lundi. Merci Jean-Sébastien Laliberté, exceptionnellement en onde aujourd'hui, à la régie, à la mise en onde et aussi au choix musical.